en coloc. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Le Bureau des Longitudes a choisi pour sa journée scientifique 2009 de faire le point sur l'apport de l'astronomie dans les sciences, mais aussi dans le domaine technique et de la civilisation. Quelques 6 intervenants se sont relayés pour parler de la quête galiléenne, du système solaire à la Voie lactée. 2009 est, vous le savez, l'année mondiale de l'astronomie, et en janvier 2010, nous fêtons également les 400 ans où Galilée tourna pour la première fois sa lunette astronomique vers le ciel. Autant d'événements qui nous incitent à faire le point sur l'évolution des connaissances depuis le XVIe siècle. Écoutez dans cette première partie Yann Clenet, chargé de recherche au CNRS, docteur en astrophysique. Yann Clenet travaille sur l'étude à haute résolution des noyaux de la galaxie, à la fois sur la recherche et le développement des techniques de très haute résolution d'observation. Il dresse pour nous un historique scientifique de la première lunette de Galilée, au Very Large Telescope et Extremely Large Telescope, d'un diamètre de 30 à 60 mètres. L'ELT européen vise 2 objectifs, l'évolution de l'univers et la pluralité des mondes, à savoir les planètes extrasolaires. Écoutez dans un second temps l'intervention de Jean-Eudes Arlot, membre du Bureau des Longitudes, spécialiste de mécanique céleste. Il a dirigé l'Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides à l'Observatoire de Paris. Il s'exprime sur l'observation et les éphémérides des satellites galiléens. Nous vous invitons à télécharger le support visuel des communications sur le site de Canal Académie afin de suivre au mieux les conférences de ces 2 intervenants. Tout de suite, Yann Clenet.
Le VLT, donc qui est un observatoire au Chili qui comporte 4 télescopes de 8 mètres, et le projet d'ELT, alors il y a en fait actuellement 3 au moins projets d'ELT sur Terre, qui consistent à faire des télescopes extrêmement grands, donc de la classe des 30 mètres, voire 40 mètres. Je ne vais pas retracer tout l'historique de cette évolution, parce qu'en une demi-heure, ça serait complètement impossible. Donc je vais mettre l'accent sur quelques points clés. Le principal, celui qui saute aux yeux, en fait, c'est évidemment l'augmentation du diamètre du collecteur, qui, grosso modo, double tous les 50 ans. Et au cours du dernier siècle, c'est presque tous les 20 ans. Alors, quelle raison à cela? La première, c'est évidemment qu'un instrument d'observation, c'est avant tout un collecteur de photons. Et il faut imaginer un peu comme quand il pleut, on utilise un seau pour récolter plein de pluie. Et évidemment, plus le seau est large, plus on va récolter de la pluie. Bien, pour les photons, pour la lumière, c'est pareil. Plus le diamètre du collecteur est important, plus la quantité de photons et de lumière qu'on va recueillir est importante. Alors, pour l'astronome, évidemment, c'est très très important, puisque l'astronome cherche à observer des objets qui sont très faibles dans le ciel, et avoir le plus de photons possible est indispensable pour avoir des informations sur ces objets. Alors, la deuxième évolution majeure, c'est le type d'instrument. On est passé d'une lunette, qui est constituée de lentilles simples, basées sur le principe de la réfraction, à des télescopes qui sont basés sur le principe de la réflexion de la lumière. Alors, les derniers télescopes sont faits à partir de blocs de verre qui sont sur lesquels on va faire reposer une surface réfléchissante. Et le problème que posaient les premières lunettes, c'est qu'elles souffraient d'aberrations optiques et importantes, et qui dégradaient énormément la qualité des images. C'est pour ça que assez rapidement est venue l'invention de d'agencements complexes de lentilles pour essayer de corriger ces aberrations. Donc c'était plus des lentilles simples, mais des doublets, voire des triplets de lentilles. Et parallèlement, ont été inventés ces télescopes spéculum, qui étaient donc formés de métal, et qui eux aussi avaient beaucoup de défauts, puisqu'ils souffraient par exemple de la dilatation jour-nuit, entre le jour et la nuit donc, et ça déformait énormément les images aussi, puisque le télescope était réglé d'une certaine façon, et ça changeait au cours de la nuit, suivant la température. Donc tout ça a amené à utiliser des nouveaux types de télescopes basés sur des miroirs formés de verre. Et là encore, on avait des problèmes parce que les structures pour supporter ces miroirs étaient de plus en plus complexes, parce que les miroirs étaient de plus en plus grands, comme je vous disais au départ. Et donc les structures et même les infrastructures, les coupoles devenaient de plus en plus grandes, aussi bien pour les lunettes que pour les télescopes d'ailleurs. Et donc il a fallu inventer à nouveau des nouvelles techniques qui consistait à amincir les miroirs, donc faire des miroirs qui avaient un rapport épaisseur sur diamètre très très faible, qui là aussi posait d'autres complications, puisque cette configuration avait comme conséquence que le miroir coulait pratiquement, on va dire, suivant l'orientation du télescope. Et donc il fallait réussir à maintenir l'état de surface de ce miroir. Alors, on a toujours voulu augmenter la taille de ces miroirs. Les plus grands, actuellement, ils font 8 mètres de diamètre, 8 mètres 20, d'un seul tenant. Mais avec les techniques actuelles, on n'est pas capable de faire des miroirs qui soient plus grands que ça. Alors, une nouvelle technique a consisté à utiliser des miroirs segmentés. Mais en fait, ce miroir-là, qui est donc le télescope du Keck, est constitué de entre guillemets, petits miroirs qui sont hexagonaux et collés les uns à côté des autres pour pouvoir comme ça augmenter la taille du collecteur jusqu'à 10 mètres pour ce télescope-là. Alors que là, vous avez le miroir du VLT qui fait 8 mètres 20. Donc en fait, les futurs télescopes, comme le LT, seront faits de miroirs agencés les uns à côté des autres, comme ça. Et pour le LT, le miroir sera constitué de quelques milliers, de l'ordre du millier de petits miroirs, entre guillemets, à nouveau, collés les uns à côté des autres. Je ne sais pas si vous représentez un peu la difficulté de la chose d'agencer correctement les uns à côté des autres un millier de petits miroirs qu'il faut réussir à bien recaler les uns par rapport aux autres, qui sont mal réglés, et donc on pense par exemple qu'il y aura un à deux miroirs qui ne fonctionneront pas lors de l'opération du télescope, et qu'il y aura tous les jours un à deux miroirs à changer. Alors un autre paramètre important de l'évolution des moyens d'observation, c'est le pouvoir de résolution. Et c'est là, sur ce sujet-là que je vais principalement baser le reste de ma présentation. Ici, vous avez une image d'un champ du ciel observé par le VLT, donc un des télescopes de 8 mètres de l'observatoire au Chili, sans moyen particulier. Le télescope a pointé une région du ciel et c'est ce qu'il observe. Si maintenant, cette même région est observée depuis l'espace par le télescope Hubble, voici ce qu'il peut observer, donc vous voyez qu'il obtient beaucoup plus de détails. Maintenant, si on revient sur Terre, qu'on utilise le VLT, et qu'on dote le VLT d'une technique particulière que je vais vous présenter par la suite, qu'on appelle l'optique adaptative, on voit beaucoup plus de détails que sa première image sans cette technique particulière. Et enfin, si on passe à l'ELT, je ne sais pas si c'est très flagrant pour les gens du fond, mais on gagne énormément en ce qu'on appelle le pouvoir de résolution, c'est-à-dire la finesse des détails qu'on observe sur une image. Alors, le pouvoir de résolution, c'est donc cette capacité à distinguer des détails fins dans notre image. Alors, elles dépendent de deux choses. Elles dépendent de la longueur d'onde à laquelle on observe, et elles dépendent du diamètre, justement, du collecteur qu'on utilise. Pour vous donner un exemple, le télescope de 8 mètres du Chili, il est capable de distinguer une pièce de 10 centimes d'euro à 150 km. Ça, c'est, on va dire, le pouvoir de résolution théorique. Parce que sur Terre, on a quelque chose qui nous embête beaucoup, nous les astronomes, ça s'appelle l'atmosphère. Bon, ça permet à la vie de se développer, mais pour les astronomes, c'est plus gênant. Donc la turbulence atmosphérique, en fait, c'est un phénomène qui est lié aux différentes températures et pressions des couches d'atmosphère. Si vous regardez par exemple au-dessus de l'autoroute, quand vous roulez, qui fait très chaud, au-dessus du bitume, vous voyez que les images dansent derrière, enfin au loin. C'est dû justement à la turbulence atmosphérique liée à la chaleur au-dessus de la route. Alors, évidemment, ça gênait beaucoup les astronomes, ça. Et ils ont récemment, ils ont essayé de contrecarrer cette limite de la turbulence. L'idée originale vient de M. Babcock dans les années 50. Il a eu l'idée d'introduire dans le chemin optique un élément qui s'adapterait, qui serait déformé, et qui s'adapterait donc pour corriger ces perturbations. À l'époque, dans les années 50, il n'y avait pas les moyens techniques de développer cette possibilité. Et on a bénéficié, si on peut dire, des recherches qui ont été faites dans le cadre de la guerre des étoiles de Ronald Reagan, qui consistait, donc, il voulait pointer des satellites pour ensuite les détruire avec des lasers. Et pour ça, il fallait pointer très précisément. Et donc, il y a eu de la recherche et développement qui a été faite sur ce sujet. Et puis, au fur et à mesure du temps, les recherches ont été déclassifiées. En France, on a aussi eu des recherches sur le sujet. Et dans les années 80, les astronomes ont pu travailler avec des personnes qui avaient cette expérience à l'ONERA, en France, pour développer le premier système d'optique adaptative astronomique. Donc c'est en France qu'a été vraiment inventée l'astronomie, en tout cas développée pour la première fois l'optique adaptative pour l'astronomie. Alors quel principe ? Le principe, c'est de mesurer ces distorsions du front d'onde. Alors pour ça, on utilise une étoile proche. On va observer une cible qui va nous renseigner sur la façon dont le front d'onde est déformé. Pour ça, il faut observer les déformations locales du front d'onde. Si on regarde des déformations qui sont à un très très grand niveau, on ne va pas voir les petites déformations du front d'onde et on va mal corriger en fait, le front d'onde. Donc on est obligé de découper le front d'onde en petits morceaux. Ensuite, on fait une analyse donc, de ce front d'onde. On utilise ce qu'on appelle un analyseur de surface d'onde qui va mesurer soit des pentes du front d'onde, soit des creux. Et cette différence donne deux types d'analyseurs de surface d'onde. Ensuite, on doit corriger ces distorsions. Alors, une fois qu'on a fait l'analyse du front d'onde, il faut ensuite calculer quelle commande on va envoyer à l'élément qui va corriger ces distorsions. Et cet élément qui va corriger ces distorsions, c'est un miroir déformable qui actuellement, sur les télescopes actuels, fait une vingtaine de centimètres de diamètre. Et ça, il doit le faire aussi rapidement que la turbulence évolue, c'est-à-dire à une fréquence qui est de l'ordre de la centaine de Hertz. Donc, résumer tout ça sur un schéma, ça vous donne ça. Vous avez la lumière du télescope qui arrive avec des fronts d'onde qui sont déformés. On insère le miroir déformable dans le train optique. Et ce miroir déformable va adapter son état de surface aux déformations du front d'onde, va corriger le front d'onde. Le front d'onde va être quasiment plan après avoir frappé le miroir déformable. On vient prélever en fait une partie du faisceau pour pouvoir vérifier que le front d'onde est bien corrigé avec l'analyseur de surface d'onde. Via un système de contrôle, on va calculer les nouvelles corrections à apporter au miroir déformable, et ainsi de suite. Donc on a une boucle en fait, de rétroaction pour pouvoir corriger les déformations du front d'onde. Donc on avait séparé le faisceau en deux. La deuxième partie du faisceau va à la caméra, c'est-à-dire à l'instrument vraiment d'observation. Il faut bien imaginer que cette partie-là, l'optique adaptative, ce n'est pas un moyen d'observation en soi, c'est juste un moyen de correction du front d'onde. Il faut toujours utiliser une caméra ou un spectrographe pour analyser ensuite la lumière. Alors, comme je vous le disais, c'est en France qu'ont été développés les premiers systèmes d'optique adaptative pour l'astronomie. Ils s'appelaient Adonis. Ils étaient installés au Chili, sur le télescope de 3062 LESO. Ensuite, on a développé le premier système à courbure. Je vous disais, il y a plusieurs systèmes d'analyseurs de surface d'onde. Donc, le premier système à courbure a été aussi installé et créé par la France. Et enfin, le premier système d'optique adaptative pour le VLT, qui s'appelait NAOS, qui était construit aussi en France. Donc, tout ça, ce sont des collaborations entre l'Observatoire de Paris, l'ONERA et pour le dernier, Grenoble. Alors, à quoi ça sert maintenant l'optique adaptative ? Ben, il faut bien imaginer que pouvoir observer des tailles fines, ça donne accès à toute une quantité d'objets plus on va loin dans l'univers. Donc, je vous ai fait ici, sur une échelle de distance, la résolution qu'on obtenait et quel type d'objet on pouvait observer. Donc, à la distance de Saturne, qui est à peu près 17 unités astronomiques, on peut commencer à avoir des détails sur les satellites de Saturne. Quand on s'éloigne, qu'on va un peu plus loin dans le système, dans la galaxie, on peut commencer à observer des planètes extrasolaires. Et ainsi de suite. Donc on peut distinguer des étoiles dans les amas d'étoiles, des étoiles dans certaines galaxies. On peut commencer à s'intéresser aux noyaux des galaxies actives. Et enfin, s'intéresser à la morphologie des galaxies lointaines. Alors, je n'ai pas le temps de vous décrire toutes les applications. Je voudrais juste me concentrer sur un exemple que je connais bien, qui est le centre galactique, c'est-à-dire le centre de notre propre galaxie, la Voie lactée, qui a une distance de 8 kg par sec, c'est-à-dire à peu près 2 milliards d'unités astronomiques, où il y a une densité stellaire qui est absolument extrême, et on n'arrivait pas jusqu'à très peu de temps à distinguer les étoiles les unes des autres au centre de la galaxie. Alors, en radio, on avait détecté en 1974 une source radio intense qu'on a baptisée Sagittarius A étoile, et on a rapidement pensé que c'était un trou noir, mais on n'avait pas de preuve formelle que c'était un trou noir, cet objet. Alors là, vous avez une image du centre galactique observée sans optique adaptative et avec optique adaptative. Alors j'approche de la fin. Pour vous parler des ELT, alors, il faut avoir vraiment conscience que les ELT, c'est tout d'abord un défi astrophysique parce qu'ils cherchent vraiment à faire des découvertes dans des domaines qu'on ne maîtrise pas encore complètement, où il y a beaucoup d'inconnus. Vous verrez souvent, si vous lisez des brochures sur les ELT, le mot origine, c'est un peu le mot vendeur pour l'ELT. Donc l'origine des planètes, l'origine des galaxies, donc comment se sont formées les planètes, comment se sont formées les galaxies. Déjà, avec le VLT, on est capable d'observer des objets qui sont proches du stade d'une planète. Vous savez que la définition d'une planète est un peu fluctuante. Avec le VLT, on a déjà pu observer un objet qui était quasiment une planète, qui n'était pas vraiment une planète, mais on n'est pas loin. Un autre objectif de VLT, c'est évidemment de découvrir les toutes premières galaxies, de comprendre comment les galaxies se sont formées. On a des idées actuellement, mais on aimerait bien confirmer certaines théories. Et pour ça, construire l'ELT, c'est vraiment aussi un défi technologique. Tout d'abord, la structure elle-même de l'ELT. Il faut bien comprendre que la structure qui va tenir le miroir, elle va souffrir du vent qui va souffler, par exemple, sur elle. Et les perturbations, les aberrations observées dues à ça, le bouger du télescope, va créer des perturbations qui seront supérieures à la turbulence atmosphérique. Donc, c'est un défi vraiment de réussir à contrecarrer ces mouvements, par exemple, du vent. Alors, de l'infrastructure, je vous ai parlé tout à l'heure des changements de miroir tous les jours. Et aussi, donc, grâce à ce développement de l'ELT, on va mettre en œuvre des nouveaux concepts d'optique adaptative. Par exemple, la MCAO, qui consiste en fait à corriger une image sur un grand champ. Pour l'instant, l'optique adaptative actuelle, elle ne peut corriger parfaitement que dans la direction de l'étoile guide. Je dis au tout début, je ne sais pas si vous vous souvenez maintenant, qu'on avait besoin d'une étoile pour nous renseigner sur les perturbations. Ben, la correction est parfaite avec l'optique adaptative actuelle, uniquement dans cette direction. Il y a des objectifs astrophysiques qui nécessitent d'avoir une correction sur un champ plus grand. Et donc pour ça, on va développer la MCAO. Une autre technique d'optique adaptative qu'on va développer, c'est la MOAO, tout ça c'est des sigles, je suis un peu désolé, pour Multi-Object Adaptive Optics, qui est particulièrement adaptée à l'observation des champs de galaxies, où on a des galaxies qui sont réparties un petit peu partout dans le champ, mais où on n'a pas du tout envie de corriger entre ces galaxies. On veut juste corriger dans la direction des galaxies. Donc on est en train de travailler au développement d'une technique qui permet d'aller corriger juste des points ponctuels comme ça dans le champ, mais pas tout le champ. Et puis le dernier sigle, c'est la XAO pour Extreme AO, qui est une technique d'optique adaptative qui vise à corriger encore plus, de façon encore meilleure que l'optique adaptative actuelle, pour pouvoir observer des planètes extrasolaires qui seront très proches de l'étoile guide. Et puis, des nouveaux composants, il faut développer des miroirs déformables qu'on ne sait pas faire actuellement. Et donc là aussi, il y a de la recherche et développement sur ce sujet. Alors, je voulais terminer en 5 minutes, vraiment, ma présentation. Alors oui, une autre chose avant, c'est évidemment le développement des étoiles laser. Là, vous avez un exemple ici au VLT. Je vous ai dit que l'optique adaptative avait besoin d'une étoile guide pour pouvoir connaître les déformations du front d'onde. Malheureusement, il n'y a pas toujours d'étoile à côté de l'objet qu'on veut observer. Donc les astronomes ont eu cette idée un peu folle d'aller se créer leur propre étoile. Donc ils utilisent un laser qui tire dans le ciel. Et le laser va interagir avec les couches de sodium de l'atmosphère. Et de la lumière va être rétrodiffusée au sol et va créer une étoile artificielle dans le champ qu'on va utiliser pour faire la correction de l'optique adaptative. Alors, je vous disais donc que je voulais terminer, peut-être faire un parallèle un peu avec Galilée, qui était le premier à utiliser une lunette qui, à cette époque, était utilisée pour regarder sur Terre, était le premier à la braquer vers le ciel. Et donc, vous parlez de cette analogie où des astronomes et des médecins se sont, entre guillemets, mariés ensemble pour braquer des télescopes vers le fond de l'œil en utilisant l'optique adaptative. Alors il faut savoir que l'œil est un milieu qui est lui aussi turbulent, et donc les astronomes souffraient d'un manque de résolution pour aller observer le fond de l'œil. Et certains médecins et certains astronomes ont eu l'idée d'utiliser l'optique adaptative pour pouvoir améliorer la résolution des images. Voilà, j'ai terminé.
Bien, bonjour. Donc, maintenant, on va attaquer autre chose. Le président en a parlé tout à l'heure. Les satellites galiléens, c'est, comme leur nom l'indique, quelque chose qui a vraiment marqué l'époque, puisque c'était non seulement une observation, on a découvert quelque chose. À l'époque, Galilée a vu quelque chose qu'on n'avait pas vu avant lui. Mais surtout, ça a marqué même la philosophie du monde. On a vu le monde différemment. Et les satellites galiléens, ils ont toujours été importants. Mais vraiment, leur importance, aussi bien au moment de la découverte, leur importance tout au long des siècles jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui encore, on peut dire que c'est peut-être les corps les plus importants du système solaire pour plusieurs raisons, que je vais essayer de vous expliquer. Alors, d'abord, retournons à la découverte. Donc, le 7 janvier 1610, Galilée braque sa lunette vers Jupiter. Et qu'est-ce qu'il voit? Il fait un dessin, il voit deux petites étoiles qui accompagnent Jupiter. Bon, je crois qu'il n'était pas le premier à l'avoir vu. Simon Marius avait aussi vu qu'autour de Jupiter, il y avait des choses, mais il fallait l'interpréter. Qu'est-ce que c'était? Le 8 janvier, il revient, il fait une observation et il revoit les petites étoiles à côté de Jupiter qui étaient brillantes. Il faut bien penser que les satellites galiléens ont une magnitude de l'ordre de 5. C'était des brillances qu'on verrait à l'œil nu s'il n'y avait pas Jupiter. Alors il se dit, c'est peut-être Jupiter qui a bougé, bien que ça n'a pas l'air d'aller dans le bon sens. Donc il y a quelque chose de louche. Je vais bien voir ce qui se passe demain. Mais demain, le 9 janvier, il y avait des nuages et Galilée n'a pas pu observer. Donc il a fallu qu'il revienne le 10 et c'était encore différent. Donc petit à petit, il va comprendre quand même, tout simplement, que c'est des corps qui tournent autour de Jupiter. Alors, il va les compter, il va voir, il faut qu'il attende le 15 janvier pour en voir 4, puisque d'habitude, il n'en voyait pas 4, bien que, c'est pas qu'il n'y en avait pas 4, mais des fois, il y en avait 2 qui étaient tellement proches, il ne les séparait pas. Alors Galilée va aussi vouloir les différencier, lequel est lequel. Alors là, on n'est pas sûr de la façon dont Galilée a opéré. Galilée dit, je regarde celui qui va le plus loin, et puis je suis son mouvement, j'ai donc sa période autour de Jupiter, et j'en ai identifié un. Après, je prends celui, le suivant, qui va le plus loin après le précédent, et je fais comme ça de proche en proche, et j'identifie mes 4 satellites avec leur période. C'est ce que Galilée dit, mais quand on essaye de le faire, ça ne marche pas. Même avec des instruments d'aujourd'hui, essayez de le faire, vous verrez, ça ne marche pas. Donc on pense que Galilée a triché. Il a triché parce qu'il a repéré qu'il y avait certains satellites qui étaient plus brillants que les autres. Donc il s'est aidé de ça. C'est vrai que la technique, c'est ça, c'est de chercher celui qui va le plus loin et puis de les identifier de proche en proche. Mais il ne faut pas oublier qu'il fait jour de temps en temps, qu'on n'observe pas ce système 24 heures sur 24. Donc quand il fait jour, on a un grand blanc, si j'ose dire, et puis on ne voit rien. Donc voilà le système et voilà comment on a identifié. Donc ça, c'est pour vous expliquer la découverte en 1610 de ces objets. Alors qu'est-ce que Galilée voyait? Je ne pense pas qu'il voyait quelque chose d'aussi net que ça dans sa lunette qu'on a là. Là, c'est une vue, j'allais dire une vue d'artiste de ce que de Galilée en train de montrer ce qu'on voit dans le ciel. Mais vous voyez, on a un gros globe brillant et on a des petits points autour. C'est ça que vous pouvez voir dans n'importe quelle petite lunette que vous braquez vers Jupiter. Alors voilà un petit peu les observations de Galilée. Alors on a voulu vérifier ce qu'avait fait Galilée grâce aux éphémérides d'aujourd'hui. Donc on prend les dessins de Galilée. Galilée donne l'heure. Il donne aussi des positions, des distances. C'est un travail qui est déjà très très sérieux. Et d'ailleurs, on s'est posé la question, est-ce que les observations de Galilée peuvent nous servir aujourd'hui? Alors, il y a deux choses, il y a deux imprécisions. La première, c'est les mesures de Galilée qu'il faisait quand même à l'œil. Il regardait, il estimait en angle la distance entre deux satellites ou entre un satellite et Jupiter. Et la deuxième chose, c'était la datation. Il donnait une heure qui était une heure solaire vraie avec des horloges qui étaient plus ou moins précises. Donc ça, ce n'est pas très facile. Souvent, il ne disait même pas à quel endroit exactement il était. Donc finalement, l'imprécision qui est entre 20 secondes et 1 minute de degré, c'est trop mauvais pour pouvoir être utilisé aujourd'hui. Donc malheureusement, ces observations de Galilée ne nous sont pas utiles aujourd'hui. Par contre, les observations qui ont commencé très rapidement, ce sont les fameuses éclipses des satellites de Jupiter. Qu'est-ce que c'est que ces éclipses? Tout simplement, c'est que les satellites, ils tournent tous dans le même plan, d'ailleurs, et le Soleil, en éclairant Jupiter, projette une ombre très importante derrière Jupiter. Et il se trouve que les satellites, ils passent dans cette ombre. Alors, en passant dans cette ombre, ils s'éteignent brutalement. ou bien il passe devant ou derrière Jupiter. Donc on a un balai entre ces satellites et Jupiter, qui est d'ailleurs extrêmement amusant à observer. Tous les astronomes amateurs aiment bien surveiller le passage des satellites devant le disque de Jupiter ou le passage des satellites dans l'ombre de Jupiter, comme vous le voyez sur ce dessin. Alors la première éclipse, Galilée l'observe en 1612, par hasard, évidemment, il regarde et tout d'un coup, qu'est-ce qu'il voit ? Enfin, plutôt, qu'est-ce qu'il ne voit pas ? Ben, il voit un satellite qui disparaît. Et alors, au XVIIe siècle, il y a beaucoup d'observations qui vont se faire. Et qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on note à telle heure, j'ai observé une éclipse. Et en fait, ce sont les seules observations que l'on va avoir pour dire où sont les satellites. Quand on observe une éclipse, qu'on voit un satellite qui rentre dans l'ombre, on a une configuration géométrique et on sait où se trouve le satellite autour de Jupiter. Donc on observe un phénomène, un satellite qui disparaît, et on sait qu'à cet instant-là, il est à tel ou tel endroit autour de Jupiter. Donc c'est ça que Galilée a vu, il a vu une disparition, et à partir de là, tous les astronomes se sont mis à observer ces phénomènes, et c'est à partir de ces observations de phénomènes qu'on a essayé de construire des éphémérides. Puisque dès qu'on a découvert ces corps, il fallait pouvoir prédire où est-ce qu'ils seraient dans l'avenir. Alors au XVIIe siècle, on va faire un petit bilan de tous les travaux qui sont réalisés. J'ai mis à gauche les observations, exclusivement observations visuelles d'éclipses. On regarde avec son œil et on note à quelle heure le satellite disparaît dans l'ombre de Jupiter ou ressort de l'ombre de Jupiter. En étude théorique, l'étude théorique, c'est essayer de comprendre comment tout ça, ça tourne. Ben, Galilée, évidemment, au début, c'est ce qu'il a essayé de faire, forcément. Et on va retrouver Cassini qui va faire un travail assez élaboré là-dessus. Mais on est dans l'empirique, là. On n'a pas compris qu'il y avait de la mécanique. On n'a pas compris qu'il y avait la gravitation encore. Alors les éphémérides, ça c'est beaucoup plus important, puisque c'est la prédiction des positions des satellites, et surtout la prédiction des éclipses, pouvoir dire à l'avance il va y avoir une éclipse par Jupiter. Alors c'est surtout Cassini qui en 1668 va publier des tables relativement précises qui annoncent à l'avance les éclipses des satellites de Jupiter. Alors il y en a d'autres, ce que j'ai souligné, c'est pas un jugement de valeur, mais c'est ce qui sera le plus utilisé, je dirais, le plus diffusé dans la communauté. Alors une chose très importante, c'est la découverte de la vitesse de la lumière. Comment on va découvrir ça ? Vous avez vu, c'est très, très régulier. Vous avez les satellites qui tournent autour de Jupiter, donc à chaque fois qu'ils passent dans l'ombre, il n'y a pas de raison que ça se décale. C'est tous les avec un certain temps, et ça devrait être régulier. Et on a remarqué, au XVIIe siècle, que de temps en temps, les éclipses elles étaient en avance, et de temps en temps, elles étaient en retard. Alors ça, tout le monde s'est posé la question, qu'est-ce qui se passe ? Et c'est Rømer qui a trouvé la solution, il a dit c'est tout simplement que la lumière n'a pas une vitesse infinie. La lumière a une vitesse, bon, qu'il a évaluée, pas très très bien, mais quand même, par rapport à pas de vitesse du tout, c'était quand même mieux. On a compris qu'il y avait une vitesse finie de la lumière qui faisait que quand la Terre, vous avez la Terre qui tourne autour du Soleil, quand la Terre était proche de Jupiter, la lumière mettait moins de temps pour venir, donc les phénomènes étaient en avance, et quand la Terre était beaucoup plus loin de Jupiter, eh bien les phénomènes étaient en retard puisque la lumière mettait plus de temps pour arriver. Donc c'est en faisant ces mesures qu'on découvre la vitesse de la lumière. Donc vous voyez encore l'importance du satellite de Jupiter qui nous permet d'accéder à ça. Et évidemment, une fois qu'on a accès à ça, les éphémérides des satellites vont devenir de plus en plus précises. Alors le XVIIIe siècle maintenant, toujours des observations visuelles d'éclipses, aussi d'occultations, c'est-à-dire quand les satellites passent devant le disque de Jupiter. C'est moins précis, mais on en fait. Alors Vargentin, il faut noter Vargentin, très important, il est le premier à se rendre compte qu'il y a une inégalité dans le mouvement des satellites, c'est-à-dire qu'il y a encore un décalage des éclipses qui sont de temps en temps en avance, de temps en temps en retard, sur une périodicité de 437 jours. Ça vient de quoi ? Ça vient tout simplement de la résonance entre les satellites. Quand Io fait deux tours, Europe, le deuxième satellite, fait un seul tour. Donc il devrait se retrouver au même endroit. Non, il y a un petit décalage. Et à chaque fois, ça va se décaler et ça va mettre 437 jours pour faire un tour complet. Donc évidemment, pour les éclipses, il va y avoir cette inégalité dans le temps. Alors Vargentin ne l'explique pas, évidemment, mais il le constate et il s'en sert pour faire des éphémérides qui vont être encore meilleurs. Alors il va falloir attendre Bailly, en fait. À partir de Bailly, tout va changer. Newton a donc énoncé son principe de la gravitation. la mécanique céleste se met en place. Alors c'est Laplace, évidemment, qui est le père de la mécanique céleste, qui va vraiment faire les choses d'une manière propre et qui va d'ailleurs tout expliquer des mouvements du système solaire. Mais c'est seulement à partir de là. Avant, c'est empirique, c'est vraiment de la cinématique qu'on fait. On étudie le mouvement d'une manière cinématique. Et à partir de là, on va faire de la dynamique. Donc là, on commence à avoir une véritable théorie dynamique du mouvement des satellites en 1788. Et Delambre va faire beaucoup d'observations et, grâce à la théorie de Laplace, avoir des éphémérides qui, là, commencent à être extrêmement précises. Alors ça, c'est ce que je vous ai dit. Jusqu'à Newton, on a des modèles purement cinématique. On a en 1749 l'inégalité de 437 jours. Vargentin va l'utiliser pour avoir quelque chose de meilleur, avoir des tables un petit peu meilleures. Et ensuite, on a vraiment de la mécanique céleste qui va nous permettre d'avoir des éphémérides de qualité. Ça, c'est une observation d'éclipse par Delambre, 1799, 3 octobre, à Cracovie. Alors, vous voyez, il explique beaucoup de choses. Eh bien, ces observations, on les utilise encore aujourd'hui. Parce que tout simplement, mesurer l'instant d'une éclipse, ce n'était pas tellement difficile. Le seul problème, c'est le temps. Il faut bien retrouver l'échelle de temps utilisée à l'époque. Et surtout, le lieu, parce que Cracovie, où est-ce qu'il était, on ne sait pas toujours où était l'observateur. Surtout qu'on n'a pas besoin d'un gros instrument, on peut donc le déplacer. Il n'a pas toujours dit exactement où il était. Et c'est quand même important, puisqu'évidemment, quand on se déplace, il y a une petite erreur qui peut se glisser. Mais ces observations, on les utilise toujours, elles sont importantes. Alors encore une utilisation très très importante des éclipses, des satellites de Jupiter. N'oubliez pas qu'à l'époque, au XVIIIe siècle, on n'avait pas d'horloge fiable. Donc quand on partait en Amérique du Sud et qu'on voulait faire de la géographie, enfin de faire des cartes de géographie, comment faire? Parce qu'on utilise les étoiles pour ça. Et il fallait avoir l'heure de départ, l'heure de Paris pour pouvoir faire ça, pour que la carte soit ramenée par rapport à Paris. Donc pour mettre sa montre à l'heure, on allait utiliser les satellites de Jupiter, puisque les éclipses qui étaient si régulières, dont on avait des éphémérides, c'était une horloge. On débarquait 3 mois plus tard au fin fond de l'Amérique du Sud, on observait les satellites de Jupiter et on remettait son horloge à l'heure en disant, ben voilà, je vois telle éclipse, ça veut dire qu'il est telle heure en temps universel, disons en temps de Paris, par exemple. Alors voilà, dans la connaissance des temps, 1796, on explique bien que les observations des éclipses des satellites de Jupiter vont servir justement à déterminer les longitudes. Donc toute la cartographie du globe va être faite à peu près, en général, avec les satellites de Jupiter. Les satellites de Jupiter vont servir à cartographier la Terre, ce qui est quand même une chose importante, au XVIIIe siècle. Dès qu'on aura des horloges qui technologiquement seront fiables, on n'aura plus besoin, évidemment, des satellites de Jupiter. Donc, dans la connaissance des temps, qu'est-ce que vous trouvez? Vous trouvez les prédictions des éclipses des satellites de Jupiter, alors émersion des satellites 1, 2, 3, et le quatrième satellite qui a à la fois des émersions et des immersions dans l'ombre. Et vous avez aussi ce qu'on appelle des configurations pour bien identifier les satellites, parce qu'évidemment, il s'agit de ne pas se tromper de satellites, de bien les trouver. Donc, on vous dit, ben voilà, tel jour, le 4, il est là, tel jour, il est là, il avance. Donc, vous les voyez tourner autour de Jupiter. Donc, la connaissance des temps qui publie ça est quelque chose de très important pour les voyageurs et les explorateurs. Alors la modélisation théorique, faut continuer à progresser parce que le problème est extrêmement ardu. Je dirais que c'est le problème le plus complexe de tout le système solaire. Pourquoi ? Parce que Jupiter est aplati, donc ça perturbe le mouvement des satellites. Les satellites, c'est des objets qui sont gros. Il faut penser que Ganymède est quasiment aussi gros que Mars. C'est des objets qui sont gros, qui se perturbent mutuellement. En plus de ça, le Soleil et la planète Saturne, ils ne sont pas si loin que ça, ou bien le Soleil, lui, il est loin, mais il est très lourd, donc il perturbe le mouvement des satellites, et en plus, il y a une résonance, c'est-à-dire que les longitudes des satellites n'ont que des configurations particulières, vous ne pouvez pas avoir tous les satellites alignés du même côté, c'est quelque chose que vous ne voyez jamais, tout simplement parce qu'il y a cette résonance, du moins entre les 3 premiers satellites. Alors, on a la somme des longitudes qui fait 180 degrés, plus évidemment un petit quelque chose qu'on appelle la libration, et on est en train justement toujours d'étudier, de savoir si on sort de la libration, si ça augmente, quelle est l'évolution du système, est-ce qu'il est stable. Ça, c'est des choses qui sont intéressantes pour connaître l'évolution du système solaire, en fait. Alors le 19e siècle maintenant, le 19e siècle, la mécanique céleste a gagné, hein, donc il va y avoir juste quelques améliorations, je citerai Souillard qui va améliorer aussi bien la théorie que les éphémérides. Alors qu'est-ce qui va se diversifier? C'est les observations, parce qu'on veut toujours plus de précision, donc il faut des observations plus précises que les éclipses. Alors on va avoir des éclipses photométriques, c'est-à-dire qu'on va avoir des techniques, même visuellement, pour noter des degrés de brillance des satellites. Donc ce sera un petit peu plus précis. On va utiliser après d'autres systèmes qui vont mesurer des positions. Parce que n'oubliez pas que quand on observe une éclipse, ben, il faut attendre l'éclipse. Quand il n'y a pas d'éclipse, ben, on regarde les satellites, mais il ne se passe rien. Et si on veut faire une observation, ben, il faudrait trouver un autre système que d'observer les éclipses. Alors les éclipses, pourquoi ne sont-elles pas précises? Ben, elles sont limitées par l'atmosphère de Jupiter. Quand vous avez, là, vous avez le degré de luminosité d'un satellite qui disparaît dans l'ombre de Jupiter. Au début, ça disparaît bien, mais à la fin, qu'est-ce qui se passe? On est dans la haute atmosphère de Jupiter, il y a de la diffraction des rayons lumineux, donc là, ce n'est pas très propre. Et effectivement, où est le satellite exactement, on ne sait pas. Donc là, on a une imprécision. Donc le problème des éclipses par Jupiter, c'est imprécis et il faut attendre que l'éclipse ait lieu. Alors les occultations, bon ça c'est une vue du HST, on voit un satellite qui passe derrière Jupiter. Vue de la Terre, c'est pas très facile. D'ailleurs vous voyez, il y a une zone d'imprécision ici. Encore une fois, c'est la haute atmosphère de Jupiter. Donc là, les occultations, ça n'est pas précis non plus. Alors comment mesurer des positions ? Alors là, ben on va tout simplement essayer d'avoir des coordonnées dans le ciel. Alors comment faire ? Ben, pour les satellites de Jupiter, ce n'est pas difficile. On va en mettre un là, on va mesurer la distance et un angle de position par rapport à la direction du nord. Donc ça, c'est quelque chose qui est relativement facile. Et alors on va installer ce qu'on appelle des micromètres pour mesurer sur le ciel ces distances. Alors il faut citer un instrument extrêmement intéressant, l'héliomètre. Qui était fait à l'origine pour mesurer le diamètre du Soleil, d'où son nom. Il mesure des distances pas très importantes, mais des distances, donc il est très adapté aux satellites de Jupiter. En plus de ça, ils sont brillants, donc ça va. Alors comment marche le système? Vous avez un miroir, une lentille qui est coupée en deux. Ben, ce n'est pas compliqué, vous déplacez les deux lentilles, vous les mettez dans l'alignement des satellites, vous les déplacez, et à un moment, vos deux satellites vont se superposer. Et à ce moment-là, on mesure le déplacement des deux morceaux de lentilles et on a la distance. Et si on mesure l'angle par rapport à une direction privilégiée, on a l'angle de position. Alors ça peut paraître un petit peu curieux, mais c'est très très bon. Et aujourd'hui, je dirais que la précision des observations qui ont été faites à la fin du 19e siècle avec ces instruments ont quasiment la même précision que les observations qu'on peut faire au sol aujourd'hui avec n'importe quel télescope. Disons qu'aujourd'hui, avec les observations CCD, on a des techniques statistiques qui vont améliorer, mais la qualité intrinsèque d'une observation est à peu près la même, d'où l'intérêt d'utiliser ces observations anciennes pour étudier le mouvement de ces objets. Alors, le XXe siècle. Alors, pour le XXe siècle, on peut aussi faire un petit bilan. Des éclipses, on va les observer encore. Alors là, on va utiliser un photomètre photoélectrique. Mais comme je vous l'ai dit, il y a toujours ce problème du fait qu'il y a l'imprécision due à l'atmosphère de Jupiter. Alors, il va se passer autre chose, c'est qu'on va avoir donc d'autres techniques pour... pour avoir des positions. On va avoir la photographie qui apparaît à la fin du 19e siècle. Intérêt de la photographie, c'est qu'on conserve l'observation. C'est plus du tout visuel. On la conserve, on peut la mesurer, la remesurer. On évite bien des erreurs. Et puis, alors, je vous parlerai aussi d'autres techniques. Et on va revenir au phénomène par des phénomènes entre les satellites, non plus avec Jupiter. En études théoriques, vous voyez qu'après Sampson, en 1921, ça s'arrête. Et il faudra attendre quasiment les années 70 pour que ça reprenne. Pareil pour les éphémérides, 1910, et il va falloir attendre quasiment les années 80 pour que ça reprenne. Pourquoi ? Ben parce qu'on estime qu'en 1920, la mécanique céleste a tout découvert, donc on arrête. Mais quand on va vouloir lancer des sondes spatiales comme voyageurs vers les satellites de Jupiter, ben on va se dire, oulala, nos théories, elles commencent un petit peu à vieillir. En plus de ça, les ordinateurs apparaissent, donc on va pouvoir améliorer les calculs d'éphémérides. Donc il va y avoir un renouveau à partir des années 80, tout simplement pour mieux comprendre le système et qu'on explore vraiment les satellites en lançant des sondes spatiales vers ces objets. Alors, les observations photographiques dont je vous ai parlé, vous voyez, on va fixer sur une plaque de verre la position. Alors, on a Jupiter et on a les satellites. Comme une plaque de verre coûte très cher, eh bien, tout simplement, on va faire plusieurs poses sur la même plaque de verre. Alors, il y a un inconvénient, c'est que Jupiter est très brillant et il a tendance à éblouir. Alors, il va falloir le cacher. Alors, on va voir naître toutes sortes de systèmes. En haut, vous avez un filtre, des filtres qui sont plus ou moins épais selon l'endroit où on se trouve. Vous allez avoir un système tournant qui va cacher Jupiter plus longtemps que les satellites. Et vous allez aussi avoir un système comme ça qui va cacher Jupiter pour que Jupiter soit moins brillant. Alors là, c'est avec le système de filtre différentiel qu'on fait ça. Et on arrive à avoir des positions très, très bonnes en faisant des mesures de ces plaques photographiques. Les observations méridiennes, on attend tout simplement, c'est des observations classiques qui ont été faites pendant très très longtemps dans la plupart des observatoires. Les satellites de Jupiter sont suffisamment brillants pour qu'on puisse les observer de cette manière. Alors on calcule leur ascension droite et leur déclinaison comme d'une étoile, comme d'une planète. Et comme on a c'est aussi un instant de passage qu'on mesure, les précisions, c'est à peu près correct. Aujourd'hui, c'est des instruments automatiques qui travaillent, il n'y en a plus que deux, je crois qu'il y en a un à Flagstaff en Arizona et un à Bordeaux qui continue à fonctionner. Alors, retournons au phénomène, on abandonne les éclipses par Jupiter et on va se dire, il y a aussi des éclipses entre les satellites qui peuvent arriver de temps en temps. Alors, c'est vrai que ça a été difficile de les observer parce que c'est rare. Quand est-ce que ça arrive? Ça arrive tout simplement quand le Soleil est dans le plan orbital des satellites, pour que l'ombre d'un satellite soit sur l'autre satellite. Alors ça arrive une fois tous les 6 ans, quand c'est l'équinoxe sur Jupiter, parce que le Soleil dans le plan équatorial de Jupiter, c'est l'équinoxe. Donc tous les 6 ans, on a ce type de phénomène. Alors vous voyez, quand on observe l'assombrissement d'un satellite par un autre satellite, on a une belle courbe, alors que quand c'est par Jupiter, on a quelque chose qui finit d'une manière un petit peu dramatique. Donc on va se concentrer maintenant sur ces observations-là, parce qu'elles sont beaucoup plus précises. Alors comment on fait? Vous voyez, vous avez 2 satellites que vous voyez comme ça de loin, et puis on a tout simplement, là c'est une occultation mutuelle, vous avez ce genre de choses qui passent. Donc là, vous avez un flux lumineux à un instant donné, et de cette succession de flux, vous en mesurez la position relative entre les 2 satellites. Vous avez aussi même des informations sur la brillance du satellite, sur les taches d'albédo qu'on peut avoir sur les satellites, énormément de renseignements intéressants. Et c'est très facile à faire, pourquoi? Parce que vous avez vos satellites qui vont s'occulter, pas besoin de les voir comme je vous les ai montrés. Là, c'est des images très mauvaises qui sont défocalisées, on voit même le miroir du télescope, mais la courbe qu'on obtient, c'est une courbe qui est relativement propre, parce qu'on se fiche de voir les satellites. Ce qu'on veut, c'est savoir de combien ils se sont assombris. Et à partir de là, on peut avoir de très bonnes précisions. Alors, on a parlé d'optique adaptative. Et c'est vrai qu'on a essayé de faire des observations en optique adaptative. Donc ça a été fait à l'ESO en 1997. Alors maintenant, il faut quand même parler un petit peu des missions spatiales, puisque les satellites, on veut les explorer. Donc si on veut les explorer, il faut envoyer des sondes. La première, ça a été Voyager, qui nous a révélé des choses intéressantes, en particulier un volcanisme extrêmement actif sur Io. Et Galiléo aussi, qui a pris, ça c'est une vue de Galiléo, donc ça c'est les volcans de Io. Donc on découvre finalement que sur Io, il y a des volcans extrêmement actifs. Alors ça c'est effectivement une chose intéressante. Mais quand Voyager est parti, on ne voit plus rien. Alors comment faire pour les observer depuis la Terre? On a eu une idée très simple, on s'est dit, Io, il est de quelle couleur? Il reflète la lumière du Soleil. Et puis, quoi d'autre? Il est chauffé par le Soleil, donc il a une émission thermique. Mais les volcans, ils sont entre les deux. Donc ça, c'est ce que vous avez ici. Vous avez la longueur d'onde ici. Vous voyez qu'à un bout, vous avez la réflexion de la lumière solaire. À l'autre bout, vous avez l'émission thermique. Entre les deux, vous avez les volcans. Donc si on observe une occultation de Io par l'un des autres satellites, on va détecter les volcans avec leurs flux. Alors Europe, ça c'est une chose intéressante, c'est qu'il y a une banquise. Bon, qui dit banquise dit océan en dessous. Eh bien, on aimerait bien comprendre la structure interne des objets. Donc maintenant, on arrive à une période où nos recherches sur les satellites galiléens, c'est de comprendre quel est l'intérieur de ces satellites, que ce soit Io ou Europe, ou les autres d'ailleurs. Alors comment faire ? Donc vous voyez, par exemple, pour Europe, bah, y a une croûte à la surface qui est vraiment une banquise, hein, c'est de l'eau. Mais qu'est-ce que c'est en dessous ? Est-ce que c'est un océan liquide ? Est-ce que c'est une glace un petit peu molle qui avec de la convection ? Ça, on ne sait pas. Donc ce qu'il nous faut, c'est savoir quelle est la dissipation de chaleur dans les satellites galiléens. Alors on va encore faire appel aux observations de phénomènes, aux observations de position, à l'astrométrie. Comment on va faire ? Voilà, on se dit une chose, c'est que quand il y a un effet de marée d'une planète sur un satellite, qu'est-ce qui se passe ? Le satellite, quand il y a un effet de marée du satellite sur la planète, on est dans le cas Terre-Lune, la Lune, elle s'éloigne, tout simplement. Et quand il y a un effet de marée de la planète sur le satellite, c'est le contraire, le satellite se rapproche. Donc si les satellites ont leur intérieur réchauffé par l'effet de marée de Jupiter, ça veut dire que les satellites sont en train de se rapprocher de la planète. Est-ce qu'on peut le détecter dans le mouvement ? Donc tout est là, il faut faire des observations suffisamment précises pour savoir s'il y a une accélération, c'est-à-dire si le demi-grand axe des satellites, Io ou Europe par exemple, il augmente ou il diminue. Mais attention, il faut avoir des théories dynamiques extrêmement précises, parce qu'il ne faut pas confondre avec des termes à longue période. Si vous avez un terme à très très longue période, si vous ne le connaissez pas, vous pouvez croire que c'est un terme séculaire, c'est une accélération. Donc ça fait partie des recherches actuelles, essayer de comprendre pour pouvoir mesurer la dissipation dans les satellites et mesurer la quantité de chaleur qui peut être créée à l'intérieur du satellite par Jupiter. Alors ça, c'est un des derniers résultats. Ce que vous avez là, c'est le flux calculé pour Io. On voit les volcans, on calcule le flux de chaleur qui sort de Io. Et on se dit, est-ce que Io est en équilibre thermique ? Est-ce qu'il est en train de se refroidir ? Ou bien est-ce qu'il ne fait qu'évacuer la chaleur créée par Jupiter, par l'effet de marée ? Alors justement, effectivement, les derniers calculs ont montré que Io était en équilibre thermique et que c'était Jupiter qui créait suffisamment de dissipation à l'intérieur de Io pour créer tous ces volcans et toute cette chaleur qui sort de Io. Donc le problème suivant, ce sera de trouver pour Europe, parce qu'il est clair que si on veut envoyer une sonde spatiale pour observer quelque chose, il faut qu'elle sache un petit peu qu'est-ce qu'elle doit observer. Donc les observations au sol vont continuer pour essayer de mieux connaître les structures de Io. Donc pour terminer, vous voyez que c'est la mécanique céleste et l'astrométrie qui nous permettent de comprendre la structure interne en mesurant de la dissipation à l'intérieur des objets. Et maintenant, l'avenir, c'est de préparer la mission Laplace, je crois qu'elle a changé de nom, qu'elle s'appelle le JSM maintenant, vers Europe et les satellites galiléens. Donc on la prépare au sol pour pouvoir dire à cette sonde qu'est-ce qu'elle devra observer quand elle arrivera au niveau du système des satellites galiléens. Voilà, je vous remercie.
Vous venez d'entendre Jean-Eudes Arlot, membre du Bureau des Longitudes, spécialiste de mécanique céleste. Il s'exprimait sur l'observation et les éphémérides des satellites galiléens. Le précédait Yann Clenet, chargé de recherche au CNRS, docteur en astrophysique. Il évoquait pour sa part l'évolution historique de la première lunette de Galilée à l'ELT, Extrêmement Large Télescope. Téléchargez la deuxième partie de cette conférence, elle est disponible sur le site de Canal Academy sous le titre « Les observations de Galilée, Vénus, le Soleil et la Voie lactée » et retrouvez les interventions de Thomas Wiedemann, Véronique Dehan, Jean-Marie Malherbe et Catherine Turon. Cette série de conférences avait lieu au Bureau des Longitudes en juin 2009 dans le cadre de ces journées scientifiques. Connectez-vous au site du Bureau des Longitudes pour connaître le programme des conférences. Elles sont ouvertes au public. Merci de votre écoute et à bientôt pour de prochaines retransmissions.